Vous écoutez France Culture, il est 18h, l'heure du journal. Un journal présenté ce soir par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel Laurentin, bonsoir à toutes et à tous. Les accords du Ségur de la Santé officiellement signés cet après-midi à Matignon, moment historique d'après Jean Castex, le Premier ministre, même si de nombreuses questions restent en suspens. On voit ça dans un instant avec Wafia Kenich. Dans ce journal également, les questions juridiques soulevées par les possibles obligations décrétées en France et en Europe pour rendre obligatoire le port du masque pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Et puis aux États-Unis, la reprise des exécutions fédérales, probablement dès ce soir. Correspondance de Loïc Loury. Ces rues de Varennes qu'ont été signés tout à l'heure les accords salariaux concernant le système de santé négocié avenue de Ségur au ministère de la Santé. Un peu plus de 8 milliards d'euros ont été engagés par l'État et des syndicats majoritairement convaincus, même si dans les différents volets de l'accord, il n'y a pas eu unanimité syndicale. Bonsoir Wafia Kenich.
Bonsoir.
Jean Castex, le Premier ministre, a parlé à l'occasion de cette signature d'un moment historique pour le système de santé français en précisant qu'il acte d'une certaine manière un rattrapage par rapport à des années de retard.
Alors, reprenons, si vous le voulez bien, chacune des catégories. 183 euros en plus pour les personnels administratifs et paramédicaux, par exemple les aides-soignantes ou les infirmières. Pour les médecins, l'augmentation n'est pas la même, hein, en fonction de plusieurs critères, dont l'ancienneté. Mais une enveloppe globale de 450 millions d'euros sera destinée à ces médecins hospitaliers titulaires. Une autre enveloppe de 124 millions d'euros pour les internes en médecine. Tout le monde sera effectivement augmenté d'après les trois protocoles signés à Matignon cet après-midi. Le gouvernement a aussi promis que la grille des salaires serait rediscutée d'ici janvier 2021. Le ministre de la Santé a aussi annoncé que 15 000 postes seraient créés à l'hôpital.
Alors, le Ségur de la Santé, Wafia, n'est pas à proprement parler terminé. Trois autres volets vont maintenant porter sur l'investissement et le financement des hôpitaux, la gouvernance et l'organisation territoriale du système de soins.
En effet, puisqu'au cours de l'épidémie, mais aussi pendant toute l'année qui a précédé, le personnel hospitalier n'a pas cessé de pointer cette gouvernance et de s'interroger. L'hôpital doit-il être considéré comme une entreprise rentable? Doit-on par exemple revenir sur la tarification à l'acte? Autre point noir, l'organisation territoriale du système de soins. Les agences régionales de santé ont dans la plupart des régions été dépassées par l'épidémie. Médecins et soignants ont souvent organisé eux-mêmes des services de soins Covid. Enfin, ce Ségur a été celui de l'hôpital et pas celui de la santé. Déserts médicaux, manque de spécialistes dans la plupart des régions, déficit de liens entre médecine de ville et hôpital, tout cela n'a pas été discuté.
Merci Wafia Kenich. La question du port du masque en France et de son obligation ou pas, notamment dans les espaces clos, va tourner probablement à la bataille juridique. Jean Castex a mis la question à l'étude alors que des associations de victimes ou de soignants demandent l'obligation du port du masque, tout comme de nombreux élus d'ailleurs et commerçants. Mais il faudra, pour qu'une obligation soit valable en France, qu'elle soit validée par le Conseil d'État. Explication sur ce point de l'avocat Patrice Spinozzi.
On est évidemment face à une atteinte à la liberté de l'ensemble des citoyens et comme toute atteinte, elle est possible si elle est justifiée par un intérêt général à la condition qu'elle soit nécessaire, justifiée et proportionnée. Donc il y aura certainement, si demain il y a une obligation de porter le masque dans les espaces clos, certains recours qui seront exercés devant le Conseil d'État, on peut le penser, et il y aura une vérification très concrète entre les éléments qui seront avancés par le gouvernement en regard de ce qu'on saura de la situation sanitaire de la France et de l'utilité, la proportionnalité, la nécessité du port de masque pour pouvoir lutter contre cette menace. En pratique, on sait bien qu'il y a une menace virale et qu'il faut la combattre. Si le gouvernement fait le choix d'augmenter un certain nombre des garanties et des protections contre cette menace virale, eh bien, il a la possibilité de le faire, indifféremment du fait qu'on soit dans le déconfinement ou dans le confinement. Après, c'est une question juridique qu'il faudra trancher, de savoir si, au regard de la généralisation de la mesure qui sera prise, celle-ci est ou n'est pas proportionnée. Mais cette mise en balance, elle est impossible à faire, tant que nous ne savons pas ce que le gouvernement a en tête et ce que pourrait recouvrir la réalité de cette obligation nouvelle de porter le masque dans les espaces clos.
L'avocat Patrice Spinozzi, des propos recueillis par Florence Sturm. Chez nos voisins européens maintenant concernant cette question du port du masque pour tenter de lutter contre l'épidémie de Covid-19, vous allez l'entendre, les situations sont très contrastées et les mesures prises, les décisions annoncées sont très variées. On voit ça avec Marie-Pierre Véraud.
C'est en fait en Italie et en Espagne, deux des pays les plus endeuillés, les pays européens aussi, où l'épidémie s'était manifestée en premier, que l'on réglemente avec le plus de sévérité. Un Français se rendant en Lombardie, par exemple, ou en Catalogne, risque un petit choc culturel. On ne s'y avance que masqué, même dans la rue, sous peine d'amende. C'est également le cas pour l'Espagne, en Andalousie, en Navarre, dans les Asturies ou en Aragon, masque dedans et dehors. Les Baléares s'y mettent ce lundi, sauf à la plage. Les images de touristes allemands et britanniques faisant la fête dans les rues de Majorque, sans masque ni distance, ont sans doute convaincu les autorités de ce tour de vis. Un degré en deçà, le port du masque reste de rigueur dans les lieux fermés, dans tout le reste de l'Espagne, en Italie, en Allemagne, en Roumanie, en Autriche, au Portugal, en Belgique depuis ce week-end, ou encore en Croatie, depuis ce lundi, il est fortement recommandé en Grèce. Il faut dire qu'un peu partout en Europe, l'épidémie repart avec le déconfinement, le retour des nationaux ou l'arrivée des touristes étrangers. Et l'on peut dire que la France appartient à une minorité qui, sur le continent, n'oblige plus au port du masque que dans les transports.
Marie-Pierre Véraud. Sur le plan économique, maintenant, la lutte contre les effets de l'épidémie se poursuit. Et le cabinet Randstad, spécialisé dans le recrutement d'intérimaires, vient apporter une note d'optimisme quant à la situation de l'emploi en temps de Covid, en affirmant que les intentions d'embauche ont retrouvé leur niveau d'avant-confinement. Écoutez sur ce point l'avis de Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Il répond à Hakim Kesmi.
Le risque, effectivement, il est sur la rentrée, notamment parce que les pertes qui ont été réalisées par les entreprises sont importantes. C'est-à-dire qu'on a plus de 50 milliards depuis le début du confinement. On voit que de l'autre côté, on a des entreprises qui ont pu tenir parce qu'elles ont fait de la trésorerie à travers notamment les prêts garantis par l'État ou les reports de dettes fiscales, que les coûts viennent s'ajouter, notamment avec la crise, les coûts de gestion dans les entreprises, les coûts de réorganisation et les coûts de gestion de la crise. Et donc à la rentrée, avec des situations dans lesquelles les entreprises n'ont pas retrouvé les niveaux d'activité d'avant-crise, des pertes supplémentaires, des dettes bien sûr qui sont importantes. Et donc la question va se poser, c'est comment ces entreprises vont-elles faire face à cette difficulté face aux dettes et face à des niveaux d'activité qui sont moindres. Donc le risque, il est vraiment de ce côté-là, c'est qu'on ait une accélération des plans sociaux et des faillites à la rentrée. L'économie a tenu et beaucoup de secteurs ont tenu parce qu'il y a eu des dispositifs fiscaux spécifiques, typiquement le chômage partiel ou la facilité de refinancement via la trésorerie. Donc il y a quelque chose qui va être extrêmement difficile. Donc c'est aussi très dépendant du plan de relance et des mesures de soutien qui vont venir. On va voir qui va en être. Et bien sûr aussi du comportement des ménages en termes de consommation et aussi bien sûr de l'évolution de l'épidémie avec toujours le risque qu'effectivement on est à rebond de l'épidémie. Donc il y a quand même une fragilité assez forte de l'économie et beaucoup d'incertitudes. Et l'incertitude, c'est jamais très bon pour l'investissement ou l'emploi et globalement pour l'économie.
Ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, indiquait de son côté que 800 000 emplois risquent d'être détruits en France d'ici la fin de l'année en raison de la crise. Les conséquences de cette épidémie en matière d'éducation, désormais, on les connaît en France, même si toutes les conséquences, évidemment, sont encore loin d'avoir tout été estimées. Mais dans le monde, l'ONG britannique Save the Children estime que jusqu'à 10 millions d'enfants pourraient ne jamais retourner à l'école après leur confinement en raison notamment des conséquences économiques de la pandémie. Explication de Zoé Palier.
Le rapport s'ouvre sur un témoignage, celui de Ayo, jeune somalienne de 13 ans, inquiète de ne pas retrouver le chemin de l'école. Pour elle, comme pour des milliers d'enfants sans internet et sans télévision, l'enseignement à distance est en plus impossible. Par le passé, d'autres crises, comme des guerres ou des catastrophes naturelles l'ont montré. Plus un enfant passe de temps loin de l'école, plus il a de risques de ne jamais y retourner. L'ONG identifie 12 pays, principalement en Afrique de l'Ouest, mais aussi le Pakistan et le Yémen. Là-bas, le risque de décrochage définitif est extrêmement élevé. Save the Children redoute aussi une explosion des inégalités. En tête des préoccupations, la scolarisation des jeunes filles, bien plus exposées aux travaux forcés et aux mariages précoces quand elles ne vont pas à l'école. Pour l'ONG, la solution est d'investir massivement dans l'éducation. Le rapport propose des pistes comme la suspension de la dette des pays les plus pauvres. Il lance un appel à la Banque mondiale et aux dirigeants nationaux. Ne sacrifiez pas le budget de l'éducation au nom de la lutte contre le coronavirus.
Zoé Pallier. Autre étude alarmante, celle de l'ONU dans son rapport annuel sur la faim dans le monde. La faim dans le monde qui pourrait très nettement s'aggraver en raison de la pandémie et de ses contre-coups économiques. En 2019, c'est déjà près d'un humain sur neuf à l'échelle de la planète qui souffrait de sous-alimentation chronique. Retour en France où l'Office central pour la répression des violences aux personnes en collaboration avec Europol vient d'arrêter, c'était mardi dernier, on a appris qu'aujourd'hui, un administrateur de plusieurs sites pédopornographiques, l'arrestation a eu lieu près de Bordeaux. Bonsoir Olivier Vogel.
Bonsoir.
Arrestation très importante hein, puisque le procureur de la République de Bordeaux s'est exprimé. D'après lui, l'homme de 40 ans interpellé est présenté comme l'une des 10 cibles prioritaires au niveau mondial dans la lutte contre les réseaux pédopornographiques.
Oui, les enquêteurs le soupçonnent d'avoir administré plusieurs sites pédopornographiques sur le dark web, la face cachée d'Internet. Il aurait ainsi, selon le parquet de Bordeaux, permis à des milliers d'internautes sur la planète d'avoir accès à de telles images. Il est présenté par la procureure de la République, vous l'avez dit, comme l'une des 10 cibles prioritaires mondiales. Il est également suspecté d'avoir joué un rôle actif dans la production de photos et de vidéos pédophiles. Le quarantenaire a reconnu les faits en garde à vue avant d'être mis en examen pour diffusion en bande organisée, détention et enregistrement d'images pédopornographiques, mais aussi viol et agression sexuelle incestueuse commises sur un mineur par un ascendant. Le dark web sur lequel il est soupçonné de s'être livré à ses activités est constitué de plusieurs réseaux qui forment le dark net. Ces réseaux ont chacun leur navigateur spécifique, téléchargeable en quelques clics. On peut ensuite, via une multitude de serveurs intermédiaires, se promener sur Internet de manière cryptée et anonyme en brouillant les pistes. Cela permet par exemple aux dissidents politiques et aux internautes de communiquer ou de chercher de l'information de manière discrète, mais c'est aussi un outil très intéressant pour toutes sortes d'activités illicites. Il y a les petites annonces de particulier à particulier, sorte de bon coin du crime et du délit, où l'on peut acheter drogue, faux papiers, données personnelles ou outils de piratage. On y trouve aussi des sites marchands qui proposent eux aussi stupéfiants, mais aussi cartes de crédit piratées ou fausses monnaies. Et enfin, les forums qui permettent d'avoir accès à des images, des vidéos et des sites principalement pédopornographiques, comme ceux qu'administrait cet homme qui a été placé en détention provisoire.
Merci Olivier Vogel. Les deux auteurs présumés du meurtre de Mireille Knoll en mars 2018 à Paris seront jugés aux assises pour meurtre sur personne vulnérable et commis en raison de la religion de la victime. Les juges chargés de l'enquête ont donc retenu le caractère antisémite du meurtre, suivant cela les réquisitions du parquet. En Pologne, l'élection ou la réélection d'Andrzej Duda à la présidence pourrait-elle être invalidée? C'est ce que pensent certains juristes, alors que l'écart entre Duda et son rival libéral Rafał Trzaskowski est relativement réduit. Moins de 500 000 voix ont séparé les deux hommes au second tour. Varsovie, Thomas Giraudeau.
Et si le scrutin était annulé par la Cour suprême, le Bureau des droits de l'homme de l'OSCE, une organisation internationale invitée pour surveiller le bon déroulement du scrutin, ne répond pas à la question, mais souligne que les médias publics ont dépassé leur rôle. Thomas Bozrup, le chef de la mission spéciale du bureau en Pologne.
La télévision publique a couvert de manière partisane la campagne électorale. Elle n'a pas rempli ses missions légales d'impartialité envers les deux candidats. Elle a servi d'outil de campagne pour le président sortant. Le manque d'impartialité de cette télévision a empêché la tenue d'élections exemplaires.
La TVP n'a cessé d'attaquer durant la campagne le candidat de l'opposition, Rafał Trzaskowski, avec des reportages au ton complotiste, voire antisémite, l'accusant de vouloir dépouiller les Polonais au profit de puissances étrangères ou des Juifs. Pour Martin Maciak, constitutionnaliste à l'université de Varsovie, la TVP a faussé le résultat du scrutin.
De nombreux Polonais à la campagne n'ont accès qu'à la télévision publique. Quand sur la TVP, le temps d'antenne accordé au président Duda est supérieur au temps d'antenne cumulé de tous les autres candidats, c'est un problème légal. Dans la constitution polonaise, il est écrit que l'élection doit être équitable. Si les candidats ne sont pas sur un pied d'égalité, alors cela peut être une base pour annuler l'élection.
Le problème, c'est que si la Cour suprême est saisie, c'est une chambre spéciale créée par le parti au pouvoir qui invalidera ou non les élections, et tous ses membres sont des juges fidèles au président Duda.
Thomas Giraudeau à Varsovie pour France Culture. Cela faisait 17 ans que les États-Unis, à l'échelle fédérale, n'avaient plus exécuté de condamnés à mort. Cette période risque bien de ne pas durer plus longtemps. Ce soir, Daniel Lee, un suprémaciste blanc condamné pour avoir tué 3 personnes, dont une fillette de 8 ans en 99, pourrait être exécuté dans l'Indiana. Explication de Loïc Loury.
Daniel Lewis Lee, 47 ans, aura passé près de la moitié de sa vie à attendre son exécution. Suprémaciste blanc, condamné en 1999, il devrait recevoir aujourd'hui une injection létale dans la chambre de la mort du pénitencier de Terre Haute. Pour cela, il faudrait toutefois que l'imbroglio en cours soit dissipé. Les proches de ses victimes, en effet, tentent toujours de bloquer l'exécution fédérale. Ils invoquent notamment leur vulnérabilité face au Covid, tiraillé entre leur droit d'assister à l'exécution qu'ils n'approuvent pas, et leur santé, la Cour suprême a été priée de trancher en urgence après l'annulation de leur requête en appel. Mais ce recours n'est pas le seul à pouvoir offrir un sursis à Daniel Lee. Une juge de Washington bloque depuis ce matin toute exécution fédérale. On ne peut pas, dit-elle, procéder dans une telle urgence. L'administration, qui a immédiatement fait appel, assure elle agir au nom du public et des familles, mais la mesure est sans doute largement politique dans un pays où les trois quarts des électeurs républicains y sont favorables. À bientôt 100 jours de la présidentielle, difficile de dire si cela aura un impact. 3 exécutions fédérales, en tout cas, doivent avoir lieu cette semaine, autant qu'au cours des 45 dernières années.
Un temps moins ensoleillé demain d'après Météo France. Les passages nuageux domineront, surtout au sud. De la pluie est à attendre localement et les températures seront légèrement en baisse de 18 à 23 degrés au nord, de 23 à 29 degrés sur le sud.